à tous. On est mardi soir, on est mardi le 19 janvier 2010, et comme tous les mardis à 17h, 17h et quelques, c'est l'émission En attendant la bombe. 1, 1, 2, 1. Ouais, là c'est... Tu m'entends, Bernard? Ah oui, parce que je voulais pas dire. Vas-y, je vais te monter. C'est le micro 3, vas-y, dis 1, 2.
1, 2, 1, 2.
Ouais, toi, t'es impeccable.
Ça va.
Moi, je suis un peu. Ouais, parce que. On innove à Radio Galère. Si je bouge tout, il y a tout qui va tomber. Putain, ça va être... Oui, alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège... Je vais te présenter. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'avoir dans mon émission Bernard de l'émission Comaguerre, que vous avez pu écouter tout à l'heure à 15h, si vous êtes infidèle du mardi après-midi. Bernard qui nous fait un tour de l'actualité politique internationale, notamment, et qui en fait prend un peu... l'envers du décor par rapport aux médias traditionnels. Alors Bernard, je voulais justement, pour commencer cette émission, te poser une petite question.
Vas-y.
Alors j'espère que ça ne sera pas trop indiscret. Ouais. Alors comment...
On verra.
Ouais. Je voulais juste savoir comment es-tu arrivé à faire cette émission Comaguerre, c'est-à-dire comprendre et agir contre la guerre sur Radio Galère. Et il y a notamment d'autres émissions aussi, les dossiers de Comaguerre. Alors est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours?
C'est tout à fait simple. Comaguerre, donc ça veut dire contre la guerre, comprendre et agir, hein, ramasser en un seul mot Comaguerre qu'on a inventé et qui est maintenant connu. Alors, ça se passe dans les jours suivant les attentats du 11 septembre 2001. Donc je suis encore en activité, je ne suis pas encore retraité, ce qui est le cas maintenant. Et à l'appel de quelques personnes, il se tient à Marseille une réunion pour examiner la situation créée par les attentats du 11 septembre et par ce qui est déjà l'annonce de la guerre en Afghanistan qui va commencer donc à peine un mois après les attentats du 11 septembre et donc mener une réflexion, éventuellement des actions contre ce climat de guerre qui est en train de s'installer, c'est-à-dire on voit et on pressent et on ne se trompe pas ce que va être la présidence Bush, c'est-à-dire guerre considérable dans différents endroits. Et il se crée, à la suite de ces réunions où chacun fait part de ses émotions, de ses interrogations, donc où il y a une partie, disons, de la gauche et de l'extrême gauche qui est là, qui s'interroge, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, il se crée un comité contre la guerre, donc qui est Comaguerre à l'époque, qui dit il faut continuer une action parce qu'effectivement, l'Afghanistan, ça y est, s'est lancé, et puis il y aura sans doute d'autres choses, ce qui s'est confirmé après, donc l'Irak, etc. Il faut se mobiliser. Et donc ce comité va se créer à partir d'individus. Alors après avoir été soutenu par une série de groupes politiques, ça va rester un groupe d'individus qui travaillent ensemble, qui vont écrire sur ces questions, donc sur ces guerres en cours ou en préparation, dans le cas de l'Irak, diffuser ce qu'ils écrivent. Alors il y a toute une période où le comité tiendra tous les jeudis soirs une diffusion de tracts sur le quai des Belges, avec un petit bulletin recto verso pour donner des nouvelles sur les guerres en cours. Et puis participera beaucoup à toutes les manifestations contre la guerre qui seront internationales, on le sait, contre la guerre d'Irak, une fois qu'elle sera annoncée en préparation, etc. Et puis après, une fois que cette guerre sera lancée, le comité va un peu s'affaiblir, parce que chacun des gens qui l'ont constitué ont chacun des attaches politiques ici ou là, vont rejoindre leur courant politique traditionnel et tout. Et le comité va se réduire à quelques personnes, entre-temps, Radio Galère aura demandé à ce que nous fassions une émission régulière sur ces ondes pour parler justement de cette actualité belliqueuse des États-Unis. Et donc, en fait, le comité, en tant qu'organe de mobilisation et puis de diffusion de tracts dans les rues, va disparaître parce que chacun des militants qu'il constituait sera reparti à ses activités habituelles. Et puis, en fait, je vais me retrouver, moi, dépositaire de la marque de fabrique Comaguerre et prolonger la réflexion et le travail donc, qui a été commencé sous cette forme-là, sous la forme donc, des émissions que je fais toujours et sous la forme donc, de bulletins d'analyse de la situation politique qui sont diffusés, alors sans site internet, mais sur une liste d'abonnés, il y a quelques centaines de noms de gens qui reçoivent ce bulletin, gratuitement bien sûr, et ceux qui veulent le recevoir ont juste à envoyer un mail en disant « voilà, ben, je veux le recevoir » et on les ajoute dans le fichier, c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi le nom Comaguerre est resté ? Parce qu'on a commencé en tant que comité Comaguerre, et même si je suis seul maintenant à faire les émissions, le nom est connu, on le retrouve sur les moteurs de recherche, etc. Donc c'était inutile de changer de nom, puisqu'il avait une diffusion large, puisque pas mal de textes qui ont été écrits par le Comaguerre sont repris sur des sites étrangers, canadiens, latino-américains, etc. Donc voilà, on garde le nom parce qu'il est connu. Ce n'est pas une marque déposée, mais de fait, elle l'est. Voilà, c'est tout.
D'accord. Eh bien, cette précision, c'est bien parce que, en fait, je ne le savais pas. Et tu sais que sans basse flatterie, c'est l'émission que j'écoute le plus, en fait.
Ben merci. Non, et c'est vrai que sans Radio Galère, peut-être ça n'aurait pas continué, parce que du fait qu'on a arrêté, le comité a arrêté son activité de rue, militante, au contact avec la population, c'est la radio qui nous a obligés, d'abord quand on était plusieurs, puis moi, à continuer cette activité régulière qui me passionne et auquel je consacre d'autant plus de temps que je suis maintenant retraité et que j'ai apprécié, alors ça, c'est à savoir aussi, parce que l'existence d'Internet et le fait de pouvoir travailler, ce qui n'est pas, je ne m'en vante pas, mais c'est comme ça, c'est l'éducation que j'ai reçue et les boulots que j'ai faits qui ont fait que je peux travailler en plusieurs langues, c'est-à-dire en anglais, en espagnol, en italien et tout. J'ai accès à travers ça à quasiment toute la presse mondiale, parce qu'en fait, on peut, sans lire ni le chinois, ni le ourdou, ni le japonais, pratiquement toute la presse internationale et tous les groupes de travail qui travaillent sur des questions internationales écrivent au moins en anglais. Et donc, à travers l'anglais, on a accès à peu près à toute la presse mondiale. Et avec l'espagnol en plus, il n'y a rien qui échappe quasiment.
D'accord.
Donc, on a un regard qui est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que les regards en langue française sont relativement pauvres et peu nombreux sur les affaires internationales. Ou alors très déformés, enfin, très pensée unique.
Formaté
en fonction des intérêts de la puissance France, la petite puissance France. Donc là, le fait de pouvoir travailler dans plusieurs langues, c'est une ouverture et ça permet vraiment d'avoir une sensibilité sur tout ce qui se passe dans le monde parce qu'il y a les grands journaux et puis tous les partis politiques d'une certaine taille et en particulier dans la gauche, ont des réseaux internationaux de diffusion de l'information. Et il y a, même aux États-Unis, je dois le dire, il y a au moins ça dans ce pays, des militants qui font un travail vraiment de fourmi pour rassembler tout ce que fait leur pays, tout ce qui n'est pas dit officiellement. Et donc, on sait vraiment beaucoup de choses quand on a le temps d'aller ramasser ces informations. Mes émissions ne sont jamais que des synthèses et des mises en perspective de toutes mes découvertes que je fais.
Ce qui est bien avec toi, c'est que tu devances mes questions. C'était juste là la question. Quelles sont tes méthodes de travail pour arriver...
Alors, méthode de travail,
c'est recherche sur Internet en recoupement sur des différents sites.
C'est vrai qu'à la limite, on pourrait presque faire un stage de formation pour les gens qui ont un peu de temps et qui veulent se passionner pour ces affaires-là, pour dire par où on passe, quels sont les bons sites, quelles sont les bonnes sources d'informations, là où il y a toujours de la matière, c'est-à-dire pas simplement la reproduction du communiqué de l'agence de presse très sèche, sans commentaire, mais où il y a de la profondeur, où il y a de l'analyse, où il y a des matériaux, et puis savoir se servir des bons moteurs de recherche et laisser de côté les mauvais, savoir que à la première page de tel moteur de recherche, on n'a que des gens qui ont payé pour être là, et donc ce n'est pas forcément l'information intéressante. Il y a tout ça que on maîtrise petit à petit. Moi, j'ai découvert petit à petit. Donc, j'ai aujourd'hui, c'est vrai, à ma disposition, un échantillon de sites où je suis sûr assez vite de trouver des choses intelligentes, documentées, solides, et qui ne sont pas ce qu'on entend au journal télévisé, tu vois.
Mais avant qu'Internet apparaisse ou soit aussi populaire et soit aussi développé, comment tu récupérais tes informations ?
C'était plus difficile, c'est-à-dire il fallait s'abonner à des journaux, il fallait trouver des sources. C'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Je crois que si Internet inquiète les puissances, puisque de temps en temps on parle de verrouillage, de censure et tout, c'est qu'il y a un accès extrêmement rapide, enfin, dans l'instant, à des sources de documentation mondiale, ce qu'on n'avait pas avant. Mais parce que même si on s'abonnait à tel ou tel journal, moi j'ai été abonné à des revues des États-Unis, tu vois, que je recevais une fois par mois, qui étaient des revues critiques, comme on dit, ou radicales, comme on dit, pour parler de la gauche aux États-Unis. Mais j'avais un journal par mois, enfin une revue par mois. Hein. Même chose en espagnol. Donc c'était de bonne qualité, mais la quantité d'informations, le recoupement, les mises en perspective étaient très, très différentes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on cherche même dans les agences de presse qui ne font pas dans l'analyse approfondie, mais qui donnent des faits. Le simple fait de pouvoir, en anglais, même souvent en français, maintenant passer par, on va lire l'AFP, pourquoi pas, mais passer par l'agence de presse cubaine, qui a une agence, qui a une édition en français, passer par l'agence de presse chinoise, qui a une édition en français, passer par Novosti, une agence qui est privée, qui est russe, mais qui est bien faite, qui a une édition française et tout, on a déjà quatre regards sur la même réalité internationale. Hein, et par exemple, bon, parlons du sommet de Copenhague ou n'importe quoi, un événement de portée internationale est vu de différents points de vue, avec des regards qui n'ont pas le même passé historique, pas la même culture, et donc on arrive à mieux élaborer une réflexion que je veux critique, parce que je pense que la planète tourne pas rond, mais enfin, à part ça.
Mais je pense que ce n'est pas le seul à le penser.
Voilà, ouais. C'est ça. Et je m'aperçois que dans tous les pays et sur tous les continents, on est loin d'être isolé en pensant
voilà,
ça. Quoi. On sent que le système est en crise.
On pourrait penser qu'on est isolé les uns des autres. D'ailleurs, c'est ce qui est voulu par des instances supérieures.
Voilà.
On se sent isolé, de penser différemment de ce qu'on peut nous servir, de la soupe qu'on peut nous servir.
Tout à fait.
Et donc, voilà, la radio permet ça. Voilà, c'était pour t'introduire. Alors maintenant... Voilà.
Alors j'ajoute, il y a aussi le phénomène des groupes de discussion, c'est-à-dire que non seulement on peut s'abonner, enfin recevoir avec le RSS, etc., des nouvelles régulières de tel ou tel site, mais il y a aussi des groupes de discussion thématiques, c'est-à-dire si on se passionne... Moi, je suis très intéressé en ce moment par essayer de comprendre ce qui se passe au Pakistan. Pourquoi les États-Unis veulent détruire le Pakistan? En gros, je résume, mais enfin, c'est ça qui est en cours. Et voir où sont les groupes, les forces politiques, les groupes sociaux qui sont conscients de ça. C'est-à-dire qu'il y a un pays étranger qui veut détruire le leur et comment ils peuvent s'organiser pour que ça n'ait pas lieu. Quoi. Et donc, il y a des groupes de discussion là-dessus. Bon, c'est en anglais, mais c'est passionnant parce que des gens qui s'expriment, y compris des groupes de discussion, je prends le cas du Pakistan, mais c'est presque incroyable, il y a des groupes de discussion entre militaires pakistanais qui s'écrivent en anglais en disant « le Premier ministre a fait ça, là on passe un compromis, c'est dangereux, là il s'est passé ci, il faut c'est inacceptable et tout. » Et qui, alors, on s'aperçoit, et c'est là aussi, c'est une découverte, c'est-à-dire, pour nous, le Pakistan, c'est des islamistes, là, un peu perdus dans leur coin, machin. On s'aperçoit que, bon, la plupart de ces officiers ont eu leur formation militaire dans les académies militaires britanniques aux États-Unis, parce qu'ils sont tous anglophones. Puis les États-Unis ont voulu que ce soit un pays qui leur soit fidèle, donc ils ont formé l'armée. Mais en fait, ont un très gros, très haut niveau d'analyse, une très bonne formation politique, et donc il y a des débats très passionnants. Bon. Et
mais en nous, anglais, alors?
En anglais.
En anglais, voilà. D'accord. En anglais. Oui, non, ça va.
Donc il suffit de s'inscrire à ce groupe de discussion, et en fait, on a accès, on peut même faire des commentaires, et donc on participe un peu au débat sur l'avenir du Pakistan, sur son clavier. Mmh. Voilà.
D'accord. Alors, Bernard, c'est vrai que donc, tu fais ton émission par rapport à tout ça, avec toutes les informations que tu récupères. Et là, justement, dernièrement, il y a eu quelqu'un qui est mort, un homme politique, un républicain,
voilà.
Philippe Séguin, dont tout le monde a dit que du bien, et qui se référençait sur un ouvrage qui parlait de la vie de Louis-Napoléon.
Alors oui, il s'appelle Louis-Napoléon le Grand. C'est-à-dire que, oui, à travers donc toute cette cascade, ce torrent d'éloges sur le personnage, j'ai essayé de lui redonner son sens historique. C'était d'abord un homme politique de droite, ça c'était connu. Mais en plus, il avait fait, en faisant une biographie très, très fouillée de Napoléon III, une espèce d'éloge du Second Empire, et il avait participé à ce qu'on a appelé à la réhabilitation de Napoléon III. Alors j'explique l'histoire. Napoléon III, il a souffert de Victor Hugo. C'est pas rien comme opposition. Donc Victor Hugo, qui était un républicain, pas un socialiste, un républicain, que Napoléon III exile, hein, on sait l'exil dans son île à Jersey et tout, et il est resté dans la France républicaine une image négative de ce dictateur qui s'est imposé par un coup d'État. Donc ça, c'est la première. La deuxième image négative, enfin négative, oui, explicative au moins du phénomène de ce qu'est le Second Empire, donc l'arrivée du dictateur, elle vient de Karl Marx lui-même. C'est-à-dire Karl Marx fait un ouvrage qui s'appelle « Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte », où il explique pourquoi la société française s'est débarrassée de la monarchie en 1948 et retombée dans la dictature en 1951. Et il explique ça très très bien, c'est un ouvrage remarquable de Marx qui, en 1948, je rappelle, il publie le Manifeste communiste, c'est-à-dire il est porteur d'une voix vers le socialisme, de l'émancipation de la classe ouvrière et tout, et il voit très bien qu'en France, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, à telle enseigne qu'on débouche donc par le coup d'État sur une monarchie, une dictature, qui ne va pas favoriser le développement du mouvement ouvrier, et on sait que donc les leaders ouvriers s'en iront, seront exilés, etc. Ça débouchera, bon, sur la suite. Voilà, donc ce personnage est quand même un personnage réactionnaire qui arrive à la tête de la France par un coup d'État et qui recrée un empire parce qu'il est le neveu de Napoléon Bonaparte et qui va, ça va se terminer très très mal, mais en fait, pendant toute cette période-là, il va avoir une activité interne, donc répressive, et extérieure, qui sera une activité de impérialiste, c'est-à-dire de mettre l'armée française un peu partout. C'est là qu'on peut développer.
Voilà, et bien ça va être là le vif du sujet de notre discussion. Voilà. Ça va être le réaménagement des villes, notamment voilà. De la ville de Paris et aussi de Marseille.
La ville de Marseille, voilà.
Dans l'architecture offerte, proposée par Georges Eugène Haussmann.
Voilà. Alors, ce qui se passe, effectivement, Marseille, et là on revient à notre sujet, c'est pour ça qu'aussi ça me touchait en tant que Marseillais de parler de cette de Napoléon III, puis de cette biographie de Philippe Séguin. Marseille, à la différence, alors, il y a des villes qui sont des villes-ports comme ont été des cités-ports comme Venise ou comme Gênes à une autre époque, qui ont leur propre projet en tant que ville portuaire et qui ne dépendent pas d'un royaume plus grand. Hein, Venise, elle est toute seule et elle fait sa politique pour les intérêts de Venise. Gênes fait la même chose un siècle avant. Marseille, sans remonter trop loin dans l'histoire, Marseille est toujours un outil du gouvernement central de la France, que ce gouvernement soit une monarchie, une république, etc. Et donc, c'est un port de la France. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, même si ça choque les Marseillais, c'est que les aléas de la vie marseillaise et du développement ou de la crise de son port sont tout à fait et toujours liés au choix que l'équipe dirigeante du pays est à Paris fait pour ce port. Et donc, ça dépend vraiment des régimes et des orientations des régimes, de la prospérité. Marseille n'est pas capable toute seule, parce qu'elle est dans un État centralisé qui décide à sa place, de dire, moi, ce qui me conviendrait le mieux pour moi à Marseille, ça serait ça. C'est pas vrai. C'est la France qui décide et qui a Marseille comme outil.
Mais là, on est dans l'époque de Louis-Napoléon III.
Voilà.
Tu nous parles.
Voilà.
Sous le règne de cet empereur.
Voilà. Alors, lui, il arrive au pouvoir dans la période, il faut la situer dans l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire dans la période du plus grand développement du colonialisme européen. Ça a commencé un peu avant, hein, puisqu'on sait que la conquête de l'Algérie, c'est 1830, donc ce n'est pas lui, c'est la monarchie, c'est les Bourbons. Mais le gros de la colonisation européenne va se faire à partir de cette époque-là, enfin, au tournant du demi-siècle, hein, vers 1850, au moment où il arrive au pouvoir, pour se continuer, en gros, jusqu'en 1914. Alors, il n'est pas responsable de tout, c'est-à-dire qu'il faut bien dire, parce que je ne veux pas le charger plus qu'il ne doit être, qu'il a été donc l'expression du colonialisme français dans ses formes les plus actives, mais que la Troisième République, bien qu'on soit revenu donc en République en 71, la Troisième République va continuer le travail colonisateur. Alors, en y mettant un peu plus de langage civilisateur, en disant ceci, cela, mais en fait, c'est la poursuite, c'est-à-dire que ce qu'il a commencé se continue sous la République. Donc, ce n'est pas lié seulement au régime, mais lui va donner vraiment un coup d'accélérateur à la colonisation française. Et pour ça, Marseille va être l'outil, parce que la colonisation française se fait en direction de l'Afrique et de l'Asie. Et donc, c'est Marseille la porte. C'est-à-dire la différence. Je reparle de deux autres ports qui sont aussi des villes qui servent au gouvernement de la France, à son développement international. Il y a deux ports qui vont servir à la traite négrière et au développement sur l'Atlantique. C'est Nantes et Bordeaux. Et Marseille ne joue pas. Marseille n'est pas concerné tellement par cette activité-là. Par contre, à partir de 1830, donc sous Napoléon III et après sous la Troisième République, Marseille a une fonction centrale. Marseille est le pôle colonisateur de la République française, enfin de l'État français. Et donc là, ça a des traces dans la vie de la ville, dans son développement, et des traces qu'on voit aujourd'hui. C'est ça qui nous a fait en parler tous les deux. Ouais. Donc ces traces qui sont dans l'architecture de cette ville, voilà, au moins du centre-ville.
C'est-à-dire qu'on veut rendre la ville acceptable pour les gens qui accostent sur les ports ou qui viennent, ou pour permettre à des couches de population aisées de s'installer au bord de mer. Et donc on a développé une certaine architecture.
Voilà. Alors l'idée,
Les quartiers étaient populaires.
Voilà, reportons-nous en 1840, le port de Marseille, c'est encore en entier dans le vieux port. Bon, on sent déjà, c'est les débuts, donc la colonisation de l'Algérie est commencée, les bateaux sont en train de grossir, on va bientôt passer à la navigation à vapeur et tout, que le vieux port va être un peu étriqué. Alors à l'époque, c'est intéressant à raconter, hein, il y a un débat pour savoir si il faut faire un port nouveau, artificielle, hein, puisque là, on est depuis la fondation par les Grecs, enfin, même depuis avant, puisque c'est la géographie, on est dans un port naturel, le vieux port, qui n'a pas tout à fait la forme qu'il a aujourd'hui, mais enfin, à peu près, donc cette calanque bien protégée qui est un port naturel. Il faut faire un port artificiel à l'extérieur, donc créer des digues, des bassins derrière les digues. Et il y a deux plans qui s'affrontent à ce moment-là. Il y a un plan sud, c'est-à-dire le nouveau port se ferait là où aujourd'hui il y a les plages ou le long de la corniche. Et puis il y a un plan nord qui se ferait là où il s'est fait vraiment. Et finalement, ce qui va décider du choix du nord, et ça c'est avant l'arrivée de Napoléon III au pouvoir, ce qui va décider c'est en fait la relation avec l'arrière-pays et avec le chemin de fer. C'est-à-dire qu'on se dit... le chemin de fer est nécessaire pour que le port puisse recevoir et expédier les marchandises, et donc l'extension nord le rapproche de la gare Saint-Charles, et tu sais qu'il y aura une voie ferrée qui a été coupée il n'y a pas longtemps, qui descend de la gare Saint-Charles à la Joliette, hein, donc. Et puis en étant développé vers le nord, donc la Joliette, Arinc, la Pinède, enfin tous les bassins qu'on voit dans le port de Marseille, on est beaucoup plus près des routes qui mènent au cœur de la France, donc la vallée du Rhône, Avignon, Lyon, Paris, etc., et le chemin de fer PLM qui va par là. Donc le choix se fait là, mais le gros du développement se fait donc à partir de l'arrivée de Napoléon III au pouvoir, qui va mettre de gros moyens pour avoir son port colonial de bonne taille, adapté aux besoins. Et donc on va avoir le grossissement Joliette-Arinc. Et pour aller donc du vieux port au nouveau port, il y a un obstacle géographique, il y a une colline. Il y a une colline qui est l'endroit où Marseille s'est développée depuis en gros l'arrivée des Grecs, c'est-à-dire la colline qu'on appelle aujourd'hui le panier, la butte des moulins, etc. Mais cette colline, elle est plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle couvre en fait ce qui aujourd'hui est coupé, la butte des Carmes, donc au pied derrière la porte d'Aix, si on veut, et puis le panier en tant que tel de l'autre côté. Et pour faire donc la voie d'accès impériale, puis c'est comme ça qu'on va l'appeler, allant du vieux port à la Joliette, nouveau quartier, il faut tailler dans la colline. Et donc on va tailler, ça va être un des grands travaux urbanistiques de l'époque de Napoléon III, c'est-à-dire ouvrir à la pelle, à la pioche et à la brouette ou à la charrette à cheval, tailler dans cette colline profondément pour faire une rue qui n'est pas complète. Alors on ne met pas complètement à l'horizontale, mais enfin la pente est faible, la pente de la rue de la République est faible par rapport à ce que ça aurait été s'il avait fallu passer par-dessus la colline du panier, t'imagines. Et on voit bien cette coupure quand on est, si tu as l'endroit dans les yeux, place Sadi Carnot, oui, et qu'on est face au bâtiment donc, qui est l'ancien siège de la Compagnie des Messageries Maritimes où il y a aujourd'hui les services des impôts. Il y a tout de suite à droite de ce bâtiment un grand mur de pierre avec un escalier qui monte pour aller au panier. Et en fait, c'est ça, on voit très bien les 20 ou 30 mètres de la coupure, de la tranchée énorme qu'il a fallu faire pour faire cette avenue. Et cette avenue, elle a été faite avec les standards et les modes donc impériaux de l'époque, comme les avenues de Paris ont été faites. Simplement, à Paris, il y en a une série, à Marseille, il n'y en a qu'une, hein, puisqu'il s'agissait de montrer que le nouveau port et le vieux port étaient rassemblés dans une unité.
D'accord. Et donc, c'est cette avenue qui a été créée pour en fait permettre... il y avait différentes utilités en fait. C'était pour renouveler le quartier, pour l'embellir, mais il y avait aussi derrière aussi des, disons, des buts moins avouables.
Il fallait y installer, ça aurait été une espèce de Wall Street, j'ose dire, pour employer des mots de notre siècle, l'endroit où les milieux d'affaires liés au trafic colonial allaient installer, donc les compagnies maritimes, les transitaires, les compagnies de chemin de fer, tout ce beau monde allait s'installer entre donc le vieux port et la place de la Joliette, où s'installe en même temps, ça fait partie de la même époque, l'immeuble qu'on appelle les docks. Alors l'immeuble, et tu vois, bon, on sait que c'est deux parties, en fait, les docks, c'est donc l'immeuble de bureau qui est sur la place de la Joliette lui-même, hein, ce très bel immeuble en briques, et auquel est accolé derrière l'ensemble de ce qui sont des entrepôts, qui a été aujourd'hui bon, réhabilité, rénové et tout, et qui est un immense immeuble de bureau. Mais à l'époque, donc, on a le siège, le bâtiment de briques qui est sur la place de la Joliette, et derrière les entrepôts où on va stocker la marchandise qui arrive du quai, qui est juste de l'autre côté de la rue. Donc tout ça, c'est le dispositif du port colonial, du port voulu par Napoléon III et ses banquiers. Parce que c'est une chose aussi qu'il faut dire et qui fait un petit clin d'œil avec la période actuelle. C'est-à-dire qu'au fond, toutes ces idées-là que Napoléon III a, il les a parce qu'elles sont soutenues par des banquiers.
D'accord.
Des banquiers qui en ont les frères Pereire, dont on parlera plus à Paris, avec le boulevard Pereire, etc. Un banquier qui s'appelle Mirès, qui va être un des promoteurs de la rue de la République, qui s'appelle rue Impériale à l'époque, qui s'appelle Mirès, mais qui est un espèce d'escroc en même temps, qui fera faillite, à qui on redonnera de l'argent, enfin, c'est très compliqué. Et dès le départ, j'allais dire, la rue de la République démarre mal, c'est-à-dire que les capitalistes se trompent, ça ne marche pas si bien que ce qu'ils pensaient, etc. Et Mirès est l'exemple. Et le troisième, qu'on connaît aussi à Marseille, s'appelle Paulin Talabo. Alors, il a laissé des traces, puis tu sais qu'à Marseille, il y a un parc Talabo sur le flanc sud de la colline du Rouca. Et Paulin Talabo est le représentant de la banque Rothschild en France et dans le Midi.
D'accord.
Et donc, en fait, et c'est ça qu'il faut voir, le régime de Napoléon III, c'est une dictature avec des banquiers qui sont tout puissants. Et on sait que Mirès est sans arrêt, le banquier de la rue Impériale, est sans arrêt fourré au palais impérial. C'est un copain, quoi. C'est le côté bling-bling du Second Empire.
Tout à fait, ouais. Hein?
Alors, parce qu'il y a à la fois les maîtresses de Napoléon III, qui en avait passablement, qui sont connues, il en changeait régulièrement, mais il a pas beaucoup, s'est pas beaucoup intéressé à son épouse. Il lui a juste fait un cadeau, j'en parlerai, c'est aussi dans l'architecture marseillaise. Mmh. Et puis ces banquiers, ces hommes d'affaires, au nombre desquels on va aussi compter Ferdinand de Lesseps, le fondateur du canal de Suez. Ouais. Alors le canal de Suez, ça fait aussi partie de la politique coloniale. Ça veut dire se développer, essayer de mettre le pied en Égypte, ce qui va marcher, et surtout essayer de faire concurrence à la couronne britannique, qui elle a déjà pris l'Empire des Indes, qui a une très large longueur d'avance dans la conquête de l'Asie. Et donc, ouvrir Suez, ça veut dire, c'est remettre le pied dans la colonisation de l'Asie.
D'accord.
Et ce qui se fera sous Napoléon III, c'est non pas la colonisation ni de l'Inde, bon, c'est déjà fait, c'est pris. La Chine, ça sera difficile parce que l'Angleterre a déjà Hong Kong, elle a déjà ses intérêts. Et donc, Napoléon III va passer par le biais de l'Indochine.
D'accord.
Donc, il va commencer la conquête de l'Indochine en passant par le sud, donc la partie où il y avait la Saïgon de l'époque et Ho Chi Minh-ville aujourd'hui. Et puis continuer vers le nord, et ça débouchera sur un train qui ira donc de l'Indochine à la province du sud-ouest de la Chine, qui est le Yunnan. Donc il y aura une tentative de colonisation de la Chine par le sud-ouest, par la France. Mmh. Donc ça, tout ça fait partie des plans colonialistes du Second Empire.
D'accord. Là, on s'écarte un peu de Marseille.
Oui, tout à fait.
C'est bien expliqué aussi, cette emprise, ce goût pour l'abondance, en fait, pour l'appropriation des terres et des richesses.
Voilà. Alors, il y a effectivement, il y a cette rue impériale, mais il y a d'autres signes. Donc, je disais, il y a le palais de la Bourse, la chambre de commerce d'aujourd'hui, qui est aussi une création. C'est-à-dire, il s'agit de montrer que les affaires prospèrent, que tout va bien. Aujourd'hui, on fait des beaux sièges sociaux quand la banque est riche. De la même façon, là, on montre que le commerce est prospère et donc on fait un bâtiment remarquable pour la chambre de commerce qu'on voit encore aujourd'hui. Donc il y a ça. Et puis l'autre trace architecturale importante, c'est le palais du Pharaon. Ça, c'est aussi, alors là, c'est aussi autre chose, c'est un cadeau de Napoléon III à son épouse.
Tant qu'à faire.
Il faut lui faire une maison de campagne au bord de la mer, ou la villa sur la côte, en gros, on dirait aujourd'hui.
La villégiature.
La villégiature. Alors, pendant le temps donc, où il fait la vie avec ses différentes maîtresses, il dit à madame, va sur la côte, t'as ta maison au bord de la mer, et puis fiche-nous la paix. En fait, c'est amusant pour l'histoire, parce que le palais du Pharaon sera fini juste au moment où l'Empire est à sa fin, et donc elle y viendra jamais. Elle n'aurait pas profité de sa maison de campagne.
Ça sera pour les petits-enfants.
Non, mais non, c'est la mairie de Marseille qui l'utilise. Voilà. Alors, oui, voilà, des traces architecturales, donc faire dans le luxe, hein, parce que par rapport à ce qu'était le panier ou la...
Ce qu'étaient ces quartiers populaires.
Voilà, c'est un quartier populaire, le vieux Marseille, il est là.
Parce que le vieux Marseille, en fait, au départ, les vrais quartiers populaires, ils n'étaient pas au même endroit que maintenant, ils étaient un peu plus...
Marseille, depuis l'arrivée des fameux phocéens, se développe à partir du vieux port, sur la colline qui est le panier, la butte des Carmes. C'est là l'extension historique. Pas de l'autre côté, côté sud du vieux port, c'est une zone de marécage, etc. C'est pas très, très hospitalier. Et donc Marseille s'est développée là. Et donc les enceintes du temps des Grecs, du temps des Romains, c'est en gros, ça entoure le secteur panier, butte des Carmes. Ça va pas beaucoup plus loin. Après, bien sûr, ça va déborder. Mais le vieux Marseille populaire historique, il est là. Et donc la création de la rue impériale, c'est une espèce de coup de hache dans le vieux Marseille. Brutal. un énorme chantier. Ça a été fait en 2 ans, c'est une masse de travail considérable. J'ai plus de chiffres en tête, mais enfin, le nombre d'ouvriers qui sont morts, l'appel à la main, c'était pas négligeable. C'était un chantier mené de façon rude.
Et il y a d'autres buts on n'a pas encore parlé, là, c'est de maîtriser ou éradiquer les soulèvements populaires, le fait de tracer de grandes avenues comme ça.
Alors, il y a effectivement l'architecture haussmannienne à cette caractère. Voilà. Oui, oui. Alors, c'est plus immédiatement sensible à Paris qu'à Marseille, parce que Paris est considéré comme plus turbulente, à cause de 89, de 48, etc. Et donc, dans l'urbanisme de cette époque-là, l'urbanisme donc de Napoléon III, il y a à la fois la volonté de montrer sa puissance et sa richesse, donc de faire des beaux bâtiments de plusieurs étages, avec, comme on voit notre rue de la République actuelle, les grands boulevards parisiens, ils sont vraiment sur le même modèle.
Mais les boulevards là qu'on peut voir sur la rue de la République, c'est ce qu'on a construit à cette époque-là.
Voilà. Mais ce qu'on ne dit pas, ce qui a été compris, c'est que, en fait, par rapport à une population turbulente, volontiers révolutionnaire, etc., il faut pouvoir ouvrir des voies d'accès qui permettent d'une part des charges de cavalerie. On imagine une charge de cavalerie dans le panier, c'est pas possible, ça passe pas. Par contre, une charge de cavalerie sur la rue de la République, ça passe. Hein. Ouais. Donc en face, ceux qui voudraient faire une barricade, ils vont souffrir. Bon, même chose, on peut installer une ou deux pièces d'artillerie et tirer dans le tas. Et donc, l'architecture haussmannienne, c'est aussi un instrument anti-émeute. Et c'est conçu comme tel, c'est-à-dire tailler droit un peu, voilà, écarter les milieux populaires et se faire un passage pour les forces de répression. Et d'ailleurs, enfin, le meilleur exemple qu'on aura de ça, c'est l'arrivée au moment de la Commune en 1870. Hein, si les forces des Versaillais arrivent si vite à massacrer le peuple parisien de la Commune, c'est qu'il y a des facilités pour accéder. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire dans un Paris traditionnel à petites rues tordues, etc. Hein. Je dis, la charge de cavalerie, ce n'était pas possible. Là, ça devient possible. Donc, quand on charge avec la cavalerie, avec le sabre au clair, on fait tomber des têtes tout de suite.
Mais ça a été reconnu comment, en fait
On a accédé après aux documents préparatoires. Hein, et l'espèce de cahier des charges que le pouvoir avait donné à Haussmann. Et dans les données...
Ah, c'était dans les données.
Oui, dans les données, il y avait la largeur pour permettre d'eux. Alors, bien sûr, il y avait le côté, j'allais dire, médiatique, on dirait aujourd'hui. Il fallait que ça ait belle allure, que ce soit ample, large, qu'il y ait des arbres. Mais en fait, on savait aussi qu'il fallait que ça puisse permettre de passer la cavalerie et l'artillerie. Parce que, et je dis surtout pour Paris, parce que Paris, c'est l'endroit où le pouvoir tombe quand il y a une révolution. Or, Marseille, il y a une petite commune marseillaise, c'est moins connu, hein, mais il n'y a pas eu d'insurrection d'une aussi grande importance, parce que Marseille n'est jamais que, et elle reste, la deuxième ville de France, et c'est Paris où les choses se passent.
D'accord, ouais. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas Internet pour suivre l'information.
Voilà, exactement.
Et alors, oui, je voulais revenir là-dessus, en fait. Donc, il a aménagé cette grande rue de la République, et en fait, c'était habité de part et d'autre.
Voilà. Mais en fait, oui.
De petites gens qui ont dû être déménagés, déplacés.
Alors, bon, il y a effectivement tous ceux qui étaient sur le tracé, qu'on a poussé.
J'imagine qu'on n'a pas pris.
Je pense qu'au niveau des expropriations, ça n'a pas été très, très humain. Ouais. Et donc, ils sont partis. Ils ont donc parti un peu au-delà, dans des quartiers un peu plus éloignés, dans des conditions qui n'ont peut-être pas été brillantes. Et puis, se sont installés, en fait, un certain nombre de bureaux, d'activités liées au transport maritime. Mais en fait, l'idée de dire c'est là que la bourgeoisie marseillaise donc prospère, puisque les affaires marchent, hein, je veux dire, avec la colonie qui marche, et puis il y a les nouvelles industries liées à la colonie qui se développent. Hein, dire, bon, le savon, c'est lié à l'importation de copra, la pâte alimentaire, c'est lié à l'importation de blé. En fait, tout ça, hein, c'est l'industrie marseillaise du début du 20e, elle prend naissance là. Et donc, l'idée, c'était de dire... on va montrer que la bourgeoisie prospère et triomphante, elle s'installe là, hein, dans des beaux bâtiments, à l'image de sa prospérité. Et en fait, elle va pas venir. Alors, elle aura bien ses bureaux, mais pas plus. Pas plus parce qu'au fond, comme de part et d'autre, c'est encore vrai aujourd'hui, comme de part et d'autre, on a des quartiers populaires, ces bourgeois, ils préfèrent finalement s'installer ailleurs. Alors, il y a différentes... possibilités. Assez longtemps, et ça avait même commencé avant, les familles bourgeoises de Marseille qui avaient une maison dans les quartiers sud, avaient des bastides dans les quartiers nord, sur les collines, hein, à Sainte-Marthe, à Saint-André, à Saint-Antoine, hein, donc des petits châteaux. avec vue sur la mer, propriété agricole où on avait qui sa vigne, qui son champ d'olivier, etc. Comme il y a le parc Brégante, par exemple, si tu connais ça, à Saint-Antoine, mmh. ou le parc là où est la mairie du 15-16e. Hein. Bon, tout ça, ce sont des bastides bourgeoises, et la bourgeoisie est là. Mais la rue de la République, ça ne l'intéresse pas. Je dis, c'est une bourgeoisie qui a les pieds bien enracinés dans la terre et qui préfère avoir ses vignes et ses oliviers, en plus de ses bateaux de commerce ou de ses usines de savon et ses huileries.
Et on peut dire que c'est spécifique à la ville de Marseille, le fait de ne pas pouvoir remplir cette rue, parce qu'à Paris, les boulevards Haussmann...
Alors ça, finalement, il... y a, la bourgeoisie va s'y installer, quitte à avoir alors des maisons de campagne un peu plus loin, ou dans la campagne normande, etc. Ah, mais là, elle va venir, parce qu'elle se sent moins... Elle est d'abord plus nombreuse, parce que...
Alors, c'est pas la il y a une différence entre la noblesse et la bourgeoisie à cette époque-là?
Il y a des restes de noblesse sur Paris, effectivement, qui ne sont pas dans les quartiers haussmanniens.
Ah, on parle de Paris, là.
D'accord. La noblesse traditionnelle, elle est plutôt rive gauche, paradoxalement. Donc, dans le 7e arrondissement.
Ça a beaucoup évolué.
Dans le 6e et le 7e arrondissement, c'est plutôt là, dans ces grandes avenues-là. Alors que ce qui est donc dans ce qu'on appelle les grands boulevards, l'architecture haussmannienne, c'est plutôt la bourgeoisie commerçante, la bourgeoisie bancaire qui va se développer à cette période-là. Mais à Marseille, il n'y a pas d'aristocratie. L'aristocratie, elle est ou rurale, hein, c'est-à-dire c'est des gens à particules qui ont des propriétés à la campagne, mais qui ne sont pas dans Marseille. Et la bourgeoisie, elle va faire ces affaires-là, mais elle sait, au fond, la bourgeoisie, quand elle est comme elle est, classe dominante, elle sait que les grosses décisions stratégiques se prennent à Paris, pas à Marseille. À Marseille, on exécute. Une fois que le port est fait, une fois qu'il y a du trafic, bon, on a des bureaux pour faire marcher ça. Mais au fond, les stratégies, c'est à Paris que ça se décide. Et donc, assez souvent, quand on regarde un peu les arbres généalogiques et les histoires des grandes familles bourgeoises marseillaises, on voit qu'il y a toujours une partie de la famille qui reste sur place pour faire marcher le business, pour faire tourner les affaires, mais qu'elle émet tout de suite des gens qui vont sur Paris, qu'on va retrouver dans les cabinets ministériels ou dans les directions des grandes banques. Et donc le relais se fait comme ça, c'est-à-dire l'information passe du fils qui est sur Paris au cabinet de tel ministre, au papa qui est à Marseille et qui tient la boutique. La bourgeoisie marseillaise n'est pas... elle est très mobile et elle suit un peu les courants de trafic. Elle n'est pas, à la différence d'autres bourgeoisies, je pense à la bourgeoisie lyonnaise, par exemple, qui a ses assises plus fortes et tout. Non, la bourgeoisie marseillaise, elle suit le mouvement qui est impulsé par le pouvoir politique central.
Donc, si j'ai bien compris, elle s'installe ou pas, alors, en fait?
Non, elle ne s'installera pas. Ils garderont leur bastide ou certains, ils garderont leur... ou ils iront au Roucablanc ou à Andoum ou à... Voilà. Mais ils ne s'installeront pas. Et donc, en fait, on va avoir, ce qui est encore le cas aujourd'hui, un bâti d'excellente qualité. Enfin, c'est très beau, quoi. C'est la pierre de taille, c'est la belle ouvrage, comme on dirait. Et en fait, dedans, une population qui n'est pas celle qu'on attendait. Alors, il y a une tentative là, ces dernières années d'un peu de réhabilitation, on a refait, etc. Mais ça ne marche pas très très bien. Et donc, cette rue de la République est un espèce d'échec permanent depuis le début. C'est-à-dire, ceux qu'on attendait le début ne sont pas venus. Il est venu d'autres gens qui sont venus là parce qu'il y avait quand il y a des logements vides, on finit toujours par les occuper parce qu'il y a toujours besoin de logements. Et on est encore dans cette situation-là parce qu'on a dit avec l'arrivée du TGV à Marseille, tout ça va s'arracher comme des petits pains. Ben non, parce que honnêtement, enfin, le cadre sup ou le dirigeant d'entreprise parisien qui veut avoir un pied-à-terre à Marseille, ça existe. Mais quel intérêt a-t-il à s'installer rue de la République? Il va chercher un petit coin avec vue sur la mer, quelque part en Andoum ou dans ces coins-là, hein, mais, ou plus loin, ou aux Alpilles. Enfin, les quartiers bourgeois de Marseille, on les connaît, mais ils sont au sud.
Hein. Ils ont toujours été au sud, voilà. Depuis le début.
Voilà. Donc, il n'y a pas d'intérêt à venir s'installer, d'autant plus que, et là, il y a la ségrégation sociale, c'est-à-dire le bourgeois... conscient de lui-même, de son prestige, de sa richesse et tout, il n'a pas envie, dès qu'il traverse la rue, de tomber sur des prolétaires. Or, la rue de la République, c'est ça. C'est-à-dire, il suffit de passer de l'autre côté de l'immeuble de prestige pour tomber sur les classes populaires et les couches les plus pauvres de Marseille. Et donc, ça leur plaît pas du tout. Ça leur plaît pas du tout. Et donc, ils vont tendance à se regrouper dans des endroits où ils restent entre bourgeois. Mais là, on ne peut pas dire qu'il y a une ligne où il n'y aurait que des bourgeois, et à droite et à gauche, dès qu'on fait 50 mètres, il y a des prolétaires. Ça, ils n'aiment pas du tout.
L'ethnicité sociale, jamais,
ils n'aiment pas du tout. Ça se retrouve encore aujourd'hui. Dans l'immeuble, donc je parlais de la compagnie des docks, donc dans les docks, là, il y a, je crois, 3 000 ou 4 000 emplois de bureau. Enfin, c'est énorme en termes de masse de main d'œuvre, oui. Mais on s'aperçoit que à partir du vendredi 18h, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'aucune des 3 000 ou 4 000 personnes qui travaillent là tous les jours et qui viennent tous les matins, c'est très animé à midi, etc. Mais aucune des personnes n'habite là. Mmh. Tout le monde s'en va. C'est-à-dire le quartier se vide.
Hein, et ce n'est pas que le vendredi soir, hein, c'est tous les soirs.
Oui, en plus, c'est même tous les soirs. Semaine, c'est fini.
Et hein. D'ailleurs, ça a empiré d'ailleurs, dernièrement, puisque depuis le réaménagement de cette rue, en fait, je pense qu'il y a une dizaine ou vingtaine d'années, c'était quand même plus animé que ça, cette rue de la République.
Ah, là, c'est carrément un désert. Mmh. C'est carrément un désert, puisque il y a la partie montante, là, celle où il n'y a pas le tram, entre donc, le Vieux-Port et la place Sadi Carnot, où il y a quelques boutiques nouvelles de grande taille qui n'ont pas l'air d'être remplies de clients en permanence, même en période des soldes. Hein. Et puis, à partir de la place Sadi Carnot jusqu'à la Joliette, c'est pratiquement que des rideaux tirés. Il n'y a aucun commerce qui marche. Parce que, de toute façon, la population... D'abord, il y a eu des années de travaux à cause du tram. Ça reste vrai. Et puis la population qui est alentour, elle est pauvre et donc elle va chez ED ou chez Lidl et puis voilà, point à la ligne. Il n'y a pas de quoi alimenter une rue commerçante et surtout pas des commerces de luxe. Il n'y a pas de clients. Là. Et les gens qui ont un peu d'argent, je pense les cadres ou cadres sub qui travaillent à la Joliette, ils ne font pas leurs courses sur place. Et le soir, ils rentrent dans leur quartier et ils vont dans les boutiques où ils se retrouvent entre eux, entre cadres sup. C'est la rue de la République, c'est pas ça. Quoi.
C'est complètement raté.
C'est complètement raté.
Et qu'est-ce que je veux dire ils ont quand même dû penser au fait que des classes moyennes seraient intéressées à venir dans cette rue. Alors pourquoi c'est quand même un échec, puisqu'ils ont à chaque fois les immeubles changent de main en main, ils se les revendent parce qu'ils n'arrivent pas à les remplir.
Les classes moyennes, enfin, quand ils sont, alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais les classes moyennes, dans les périodes où elles ont eu un peu d'argent, bon, ça va baisser maintenant, on sent très bien que c'est en train de se casser la figure. Mais les besoins et les attentes des classes moyennes en matière d'habitat, c'est plus ça. Ils préfèrent avoir des grandes fenêtres avec vue sur la mer, même peut-être un peu moins de surface, mais des immeubles où il y a des ascenseurs. Pourquoi pas une terrasse ou un bout de jardin ? Enfin, les attentes et les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, ces immeubles-là ne correspondent pas à ces besoins-là. C'est-à-dire, quand les grands appartements qu'il y a ou dans les immeubles haussmanniens à Paris ou dans la rue de la République, il y en a quelques-uns, un appartement de 200-300 mètres carrés qui est occupé par une famille bourgeoise, il n'est maintenu que parce qu'il y a une ou deux ou trois maisons de campagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les besoins de nature, de promenade, etc., avoir un superbe appartement ou dans Paris ou dans Marseille, mais en pleine ville, ça suppose qu'on ait un petit pavillon au bord de mer, qui sait, un studio à Chamonix. Enfin, c'est ça la vie des bourgeois. Et donc, dire je fais un effort financier pour m'acheter un appartement dans la rue de la République et rien d'autre, c'est se retrouver enfermé dans un cadre qui ne correspond pas aux attentes des classes moyennes contemporaines, je trouve.
D'accord.
C'est le sentiment que j'ai. Tu vois.
En tout cas, l'avenir jugera. Mais du fait, là, tu avais parlé tout à l'heure à l'époque de Louis-Napoléon III, donc il y avait des banques déjà installées, donc c'était déjà une zone commerciale.
C'est ce qui était lié au trafic portuaire. Trafic portuaire veut dire achat. Enfin, il faut payer le transport, donc maritime, compagnie. Ouais. Il faut dédouaner la marchandise, donc il y a des droits de douane. Il faut payer le transit. Enfin, il y a un mouvement d'argent lié au passage de la marchandise. Hein. Et souvent, la marchandise même change de main. Il y a des systèmes de négoce, c'est-à-dire il y a des gens qui achètent de la marchandise et puis qui vont la répartir chez des grossistes. Donc, il y a de l'argent qui circule. Donc, il faut qu'il y ait des banques.
Et ces banques existent toujours ?
Ben, il y a eu, non, pas sur place, il y a eu la Société Marseillaise de Crédit, qui est une banque locale. Il y en a eu quelques autres. Mais les banquiers de Napoléon III, ils ont disparu. Enfin, Rothschild a continué, mais n'a pas besoin de Marseille pour sa prospérité.
Voilà. Et pour, on va bientôt conclure. En fait, donc, on peut dire que Marseille reste une des rares villes dans le monde entier, d'ailleurs, où il y a un centre-ville populaire.
Ah oui. Et ça, alors ça, c'est assez étonnant parce que, enfin, on voit, pour habiter à Marseille depuis longtemps, une espèce de volonté permanente des couches dirigeantes, je veux dire, qu'elles soient de droite ou de centre-gauche. Je veux dire, les municipalités socialistes n'ont pas une attitude très, très différente, de vouloir que le centre-ville soit aux mains des bourgeois. et de vouloir qu'en particulier, que la rue principale, qui n'est pas la rue de la République, ne soit pas considérée comme la rue principale de la ville de Marseille, alors que du point de vue de l'architecture, c'est la plus belle, parce qu'elle a une unité, c'est du beau bâtiment, etc. Mais Marseille, c'est la Canebière, hein, et il n'y a pas que la chanson, hein, jusqu'au bout. Hein, Marseille, c'est la Canebière. Or, la Canebière, du point de vue architectural, il suffit de regarder, moyen, hein. Se mettre de côté, de regarder. C'est une catastrophe architecturale.
C'est sûr.
Hein, le seul. Il y avait deux beaux bâtiments. Il y a là où il y a le commissariat de police, l'ancien hôtel Splendide. Hein. Et puis, il y avait ce qui a été le siège de la marine, là où il y a CEA. C'est un beau bâtiment. Bon. Mais autrement, le reste, c'est une catastrophe architecturale. Mais c'est le centre de Marseille. Or, le centre de Marseille, c'est à droite et à gauche des quartiers pauvres parmi les plus pauvres. Hein. Parce qu'il suffit de traverser. On est rue Tubano, on est rue Bois de la Farine, on est rue Longue, etc. Or ça, tous les affichages qu'il y a, alors qu'ils peuvent être soit une volonté urbanistique bien polie, soit une affirmation carrément raciste, genre il faut les mettre à la porte, alors on voit qui c'est,
ouais.
les
Auvergnats.
Les Auvergnats ou les Suédois, ouais. Et ben, ça marche pas. Parce que de toute façon, il faudrait pouvoir mettre des bourgeois à la place, et les bourgeois, ils veulent pas venir là. Quel intérêt un bourgeois qui a une villa sur la corniche à venir s'installer sur la Canebière, même rénovée? Aucun. Bon, c'est pas facile de garer, il y a pas.
Si, si on a son bateau dans le port.
Voilà, à la rigueur. Voilà, à la rigueur, ça. Donc, les pauvres, ils restent là, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres candidats à s'installer. Et puis, j'ajoute que, pour connaître un peu les populations de ces quartiers-là, puisque mon épouse y travaille, que les populations, même très pauvres, même avec des moyens, petits moyens, des vies difficiles, préfèrent rester dans ces quartiers-là, que ce soit à Belzunce ou Rulong, parce que justement, ils sont dans le centre-ville. Et qui préfèrent beaucoup pouvoir aller se promener sur la Canebière, descendre sur le vieux port à pied, ou même envoyer leurs gosses jouer avec leurs trottinettes sur les trottoirs de la Canebière, plutôt que d'être dans une cité à 15 km du centre-ville, où ils seront dans un espèce de ghetto, de pauvres.
Ouais, hein, tout à fait. Ouais.
Hein, et donc, même si, alors moi, il faut rentrer, il y a des intérieurs dans ces quartiers-là qui prennent aux tripes, tu vois, tellement c'est pauvre, mais en même temps. Ils disent, mais oui, mais là, on est mieux, parce que quand même, on est en ville, on n'est pas parqué entre pauvres. Et donc ça joue pour leur maintien. Et donc l'échec, la bourgeoisie n'arrive pas à se réapproprier le centre-ville. Alors on dit, effectivement, les Bretons, les Suédois, ils sont toujours là, ben oui, ils sont toujours là, parce que vous, bourgeois, vous n'avez pas envie d'être là, au fond. Hein. Vous voudriez bien, pour l'image, que ça donne l'air riche, mais ça ne marche pas.
Mais quand même, là, quand on voit ce qu'ils proposent, on va finir là, sur oui. Marseille, capitale culturelle 2013, là, on peut voir aussi là, des plans, des maquettes, je ne sais pas si tu as vu ça, là,
alors,
Méditerranée qui veut rénover avec des palmiers et des plages.
Voilà, alors effectivement.
Et de la pelouse un peu partout, des terrains de tennis.
Voilà, ils vont essayer d'améliorer l'image. Les moyens vont être un petit peu difficiles à rassembler, malgré tout. Parce que le fait que quand l'Europe décide de faire de Marseille ou d'une autre ville une capitale culturelle, elle ne met pas beaucoup d'argent dans la mécanique. C'est un label. Bon, mais après, il faut trouver les moyens de financement. Alors, il va y avoir des efforts faits. C'est laborieux. Par exemple, je pense au fameux musée là, qui doit être construit sur le J4, où il semble qu'on arrive à l'achever avant 2013, mais ce n'est pas trop sûr. Il y a la Maison de la Méditerranée qui va faire le conseil régional.
Il y a le MUCEM aussi.
Hein, voilà, le MUCEM. Mmh. Et puis, le reste, d'abord, il faut voir que Marseille, pour obtenir le label européen, a inclus le département des Bouches-du-Rhône en entier, c'est-à-dire, elle a dit, l'offre culturelle, c'est Marseille, mais c'est Aix, c'est Arles, c'est...
On va partager les frais.
On va partager les frais, et puis on va montrer qu'il y a quand même pas mal de choses, mais Marseille tout seul, et c'est vrai que le patrimoine monumental de Marseille, il est relativement faible, et pour beaucoup, il est le fruit du Deuxième Empire. Hein. Tout se passe à ce moment-là, enfin, je veux dire, le palais Longchamp, enfin, tout ça se passe au 19e, depuis, il n'y a pas eu grand-chose. La seule innovation architecturale, c'est les docks, c'est une rénovation, c'est la tour CMA, hein, c'est la tour... Ouais. C'est la seule innovation qui...
Quelle innovation. Bon,
voilà, mais c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Et puis, il y a eu le Corbusier, qui est une curiosité. Il y a des gens qui viennent voir l'immeuble du Corbusier, parce qu'il est unique en son genre. Hein.
Il est agréable à vivre, enfin, je sais pas.
Les gens qui y sont, ils sont attachés. Ils sont attachés parce que... Alors, c'est moins vrai maintenant, mais Ça a été un endroit où se sont regroupés beaucoup de gens progressistes qui appréciaient cette vie collective, cette vie fonctionnelle, ce modernisme, le fait, tu vois, le principe de dire on a des appartements qui ne sont pas très grands, quand on a des amis, il y a un hôtel qui est intégré dans l'unité d'habitation, et donc les amis qui viennent, eh bien, ils vont loger dans l'hôtel. Donc ça évite que chacun ait une chambre d'amis qui sert une fois tous les 2 mois. Voilà. Il y a une structure collective, de la même façon qu'il y avait une rue marchande à l'intérieur de l'immeuble. Il y avait cette idée de vie collective qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui faisait partie du projet Le Corbusier.
D'accord.
Voilà, et donc ça avait attiré des gens qui étaient attachés, enfin que ce modèle de vie collective intéresse. Et puis il y avait une association de résidents qui était très active, il y avait toute une sorte de choses. Puis une école sur le toit, enfin, tu vois, c'était une petite ville qui avait toutes ses fonctions regroupées. Ce n'était pas simplement une tour d'immeuble.
Voilà. Ça aurait été Corbusier contre Louis-Napoléon III, plutôt que Victor Hugo.
Voilà, avec oui, là, justement les besoins de l'époque, c'est-à-dire de l'espace vert autour, etc., et de la vue.
D'accord, Bernard, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, parce qu'on a un peu tout vu.
On a un peu débordé, non ?
Non, on n'a pas trop débordé, mais le fil conducteur, on s'en a un peu écarté. Donc, on a parlé un peu de...
C'est vrai, oui.
On a répondu aux questions.
Oui, tout à fait.
Sur le fait, recentrant le débat
sur le Second Empire et sur Napoléon.
Tentative
de faire de Marseille. Enfin, je dis, dès l'instant où la colonisation est finie, alors que dans la période du Second Empire, c'est la grande expansion du colonialisme français, dès l'instant où cette page-là est tournée, alors ça a mis un certain temps, puisqu'en gros, on peut dire que la colonisation se termine en 62 quand l'Algérie est indépendante, le port de Marseille, il tourne un peu à vide. Et il est obligé de se réinventer d'autres activités, mais en dehors de Marseille, en plus. Donc, c'est à Fos que ça se passe, et c'est tout autre chose. Et Fos n'a pas d'incidence sur la vie urbaine et sur la forme de la morphologie de la ville de Marseille en tant que telle.
D'accord.
Et ça a été vécu comme un arrachement par beaucoup de gens. Alors que ce qui se fait à Fos, du genre installer une aciérie ou une raffinerie de pétrole, ça ne se fait pas en centre-ville, donc ça ne pouvait pas se faire ailleurs.
Bernard, on continuera peut-être plus tard.
Oui,
alors,
oui,
il faut
oui.
laisser la place pour l'émission suivante. Alors, je te remercie beaucoup. C'était l'émission En attendant la bombe avec Scalpa. Et c'était Bernard de l'émission Comaguerre. Merci à toi.
Merci de ton accueil.
Te voir très bientôt. Voilà, là, il faudrait peut-être y avoir un blanc, mais bon, c'est pas trop grave.